Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du Carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de l'UQAC. Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je m'appelle Stéphanie Collard, je suis conseillère pédagogique en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Emmanuel Colomb, qui est professeur associé au département des sciences humaines et sociales de l'UQAC et aussi auteur d'un essai sur l'approche holistique en éducation supérieure. Il sera alors question du modèle holistique pour l'apprentissage ainsi que de la façon de le comprendre et de l'utiliser dans sa pratique. Bon balado! Bonjour Emmanuel.
Bonjour Stéphanie, ça va bien?
Merci, merci d'être ici aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que représente le modèle holistique en général?
Alors, le modèle holistique, finalement, c'est une métaphore visuelle pour comprendre notre pratique dans quatre aspects de notre être, mais c'est aussi un code de comportement pour l'individu. Ce concept intègre les différents aspects de la personne tout en soulignant l'interconnexion entre ces éléments, ce qui en fait un modèle dynamique et un perpétuel mouvement. L'un des exemples les plus anciens que j'ai trouvé se trouve dans le livre de Frank G. Speck de 1935, « Les chasseurs sauvages de la péninsule du Labrador ». Et Speck représente un peu ce modèle-là et voilà comment il va le décrire. Alors, je vais prendre mon livre un peu, peut-être qu'on va tâtre mes pages. Alors, il précise en page 34, « Puisque les indigènes discutent des questions de l'âme, employant le nom propre de Mistapéo, grand homme, je ferai comme eux. Le grand homme semble être situé dans le cœur, Outei. Il est l'équivalent de la vie incarnée dans les êtres humains. » Et il rajoute en page 36, « La philosophie Nascapi de l'âme contient également un facteur éthique. Nous apprenons en effet qu'à mesure que le grand homme fait activement preuve d'une plus grande volonté dans les intérêts de sa demeure matérielle, le corps de l'individu, il exige que l'individu ne dise aucun mensonge et n'use pas de tromperie envers les autres. En particulier, la générosité, l'amabilité et l'assistance aux autres lui font plaisir. Outre ces préceptes éthiques, il en existe d'autres axés sur la satisfaction des restes des animaux. » Lorsque Speck présente dans son livre, qui est un livre plus, je dirais, anthropologique, c'est effectivement, ce modèle-là agit comme un code de conduite, mais aussi comme un lien avec l'environnement, soulignant la nécessité de préserver toute relation avec les êtres du visible et de l'invisible. Alors, bien plus tard, finalement, il va apparaître un autre modèle assez connu, qui est celui du Centre canadien de l'apprentissage en 2009, qui représente effectivement l'apprentissage tout au long de la vie, selon les philosophies des Premières Nations. Et ce modèle met le plus souvent en lumière les quatre directions, couleurs, parties du corps, quatre aspects de l'être, spirituel, physique, mental, émotionnel. Chaque aspect est interconnecté, formant un ensemble cohérent et en constante évolution. Mm-hmm. Alors, en 2024, est apparu un livre aussi sous la direction de Diane Campo, qui s'appelle « Regard diversifié sur l'éducation autochtone, réflexion sur une pédagogie du XXIe siècle », où il va y avoir quand même différents modèles holistiques qui vont être présentés, qui vont être expliqués en fonction de différentes sciences. Donc, c'est intéressant d'avoir accès à ce livre-là. Mm-hmm. Mais disons qu'en résumé, ces quatre aspects, donc le spirituel, qu'on va souvent représenter par la couleur blanche, représente le respect envers tous les êtres vivants, visibles ou invisibles. Il correspond à l'âme ou au sens que l'on donne à la vie, à nos croyances et à la manière dont on va cultiver effectivement nos croyances. L'intellectuel ou le mental, souvent associé au jaune, est lié aux enseignements et au savoir que l'individu acquiert tout au long de sa vie. Donc, c'est ses apprentissages. Le physique est associé à la couleur rouge, concerne le corps et les savoir-faire pratiques. Donc, tout ce qui va toucher la manière de dire les choses, mais d'essayer les choses. Donc, c'est un environnement, je dirais, proprio-centrique. Mm-hmm. L'un est l'émotionnel, donc le dernier. Le noir incarne souvent la manière dont l'individu vit ses émotions et interagit avec les autres, souvent associé aux compétences interpersonnelles ou au savoir-être. Donc, l'un des principes fondamentaux de ce modèle, c'est qu'il n'est jamais statique, même s'il est représenté de manière statique, il ne faut pas le voir comme quelque chose de statique. Il était animé par l'énergie et le mouvement, et bien que l'on cherche souvent à le représenter donc dans un équilibre entre ces quatre aspects, cet équilibre n'est jamais en réalité complètement atteint. Il s'agit plutôt d'une quête spirituelle continue visant à harmoniser ces dimensions. Ce modèle met également en avant le rythme et la vibration nécessaires à la création de relations de qualité et de confiance entre les individus. Et j'ai découvert cela un peu de manière particulière en écoutant des aînés jouer du tambour au début de rencontres et souvent à la fin des rencontres. Et je me posais la question, mais qu'est-ce que ça fait finalement dans une réunion? Et en fait, ça vient harmoniser un peu les rythmes biologiques de tout le monde et mettre les gens un peu sur le même état émotionnel. Et à la fin, ça vient clôturer ça. Et souvent, effectivement, les inus notamment vont finir par une danse ou par une parole d'aîné qui vient clôturer, je dirais, ce rythme harmonique.
C'est intéressant, puis c'est aussi ce dont tu parles dans ton livre, je pense.
Oui, alors il y a un aspect effectivement que je présente dans mon livre suite à la discussion que j'avais eue avec Clifford Moore, qui était l'ancien chef de Master Yacht, où il disait que des fois le modèle de la roue de médecine était présenté de manière très statique. Donc dans le livre que j'avais écrit en 2012, j'avais essayé de représenter ce modèle-là un peu comme une spirale ou une tempête avec les quatre couleurs qui étaient en mouvement pour essayer de représenter ce que me disait finalement Clifford Moore. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'il y a d'intéressant aussi, et on peut aller peut-être un peu plus loin sur cette notion-là, c'est que le modèle holistique, finalement, représente une approche précieuse pour la pédagogie en classe. Il enseigne que la création de liens entre les quatre aspects de l'être, le spirituel, le physique, le mental et l'émotionnel, est essentielle pour établir une relation de confiance avec les étudiants et entre les étudiants. Si l'enseignant échoue à instaurer ce lien authentique avec ses élèves, ces derniers risquent de ne pas se sentir en sécurité sur le plan culturel, ce qui entraverait leur apprentissage et leur réussite.
Ah, intéressant. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne enseignante pourrait avoir des réflexions en lien avec le modèle holistique et ses pratiques habituelles.
Ben oui. Et en fait, ça vient questionner, par exemple, la manière dont on peut rentrer du spirituel dans notre enseignement. Mm-hmm. Et ça, c'est intéressant parce qu'une stratégie efficace pour établir ces liens, effectivement, est l'intégration du jeu, donc de la relation au début de du cours. Mm-hmm. En fait, ça sert à rétablir un contact psychologique entre les étudiants et leur environnement. Donc, le jeu réinsuffle de l'énergie et favorise la confiance au sein du groupe. Il faut savoir que le jeu est le principe d'apprentissage que tous les mammifères sur la Terre vont utiliser. Des fois, on a tendance un peu à l'oublier à l'université, mais c'est quelque chose de fondamental parce que ça amène les gens à créer de la relation. Donc, il est important de se rappeler que la relation entre enseignants et étudiants et entre étudiants entre eux doit être constamment renouvelée et entretenue, notamment s'ils proviennent d'une culture différente. La relation ne doit jamais être considérée comme acquise. Dans le jeu, on oublie notre statut et notre propre état. L'énergie du groupe, finalement, se propage et nous entraîne vers la relation et le rire. En général, on ne rit pas avec une personne qui ne nous respecte pas. Donc, le jeu dans le modèle holistique, pour moi, est absolument fondamental dans mon enseignement. Mm-hmm. En outre, ce modèle holistique nous enseigne que la transmission des savoirs est aussi, et sinon plus importante que leur acquisition. Il est essentiel de créer des espaces dans lesquels les étudiants peuvent partager leurs connaissances. Cette transmission est facilitée par une relation de confiance mutuelle entre l'enseignant et les étudiants entre eux. En l'absence de cette confiance, les étudiants sont réticents à partager ce qu'ils savent. Par conséquent, il est plus pertinent de centrer souvent les évaluations sur la capacité des étudiants à transmettre leurs connaissances à leurs pairs, plutôt que sur la simple acquisition de connaissances. Donc, le modèle holistique nous enseigne sans doute ces éléments-là.
Puis maintenant, Emmanuel, en quoi le modèle holistique est un modèle d'inclusion finalement, ou pourrait favoriser un contexte d'inclusion en classe?
Alors, pour moi, ça m'aide énormément. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est que le modèle holistique repose finalement intrinsèquement sur un principe d'inclusion, puisqu'il reconnaît le lien entre tous les êtres vivants, sans distinction de statut, de couleur, de religion ou de genre. L'une des valeurs fondamentales, c'est qu'il promeut le respect accompagné de l'humilité. L'humilité permet d'écouter et d'apprendre des autres, quelles que soient finalement les différences qu'on va retrouver dans notre salle de classe. Contrairement à la pyramide de Maslow qui hiérarchise les besoins humains, le modèle holistique place sur un pied d'égalité les quatre dimensions de l'être. Comme l'a démontré Cindy Blackstock, une chercheuse autochtone récipiendaire du prix Nobel des enfants, l'intégration de la spiritualité dans ce modèle est automatiquement et indissociable de l'être humain, peu importe son âge et sa condition. Donc ce modèle nous rappelle que chaque individu est en quête de sens et de direction dans sa vie. Pour que cette quête soit fructueuse, il doit évoluer dans un environnement où il se sent écouté, valorisé et en sécurité, tant sur le plan physique, psychologique. D'accord ? Donc en somme, le modèle holistique propose une approche inclusive et dynamique qui favorise l'apprentissage en valorisant les relations, l'écoute active et la reconnaissance des savoirs et des compétences interconnectées de chaque individu. Donc il place les gens sur un niveau d'égalité dans l'apprentissage. Et ça, c'est intéressant pour moi, effectivement, de le valoriser.
Merci, Emmanuel. Merci pour cette explication puis pour ces réflexions autour du modèle holistique.
Merci, Stéphanie. Bonne journée.